bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme on a mes consciences. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'historien israélien Ilan Pappé. Depuis plusieurs mois, l'armée israélienne, comme vous le savez, massacre des Palestiniens dans la bande de Gaza. En juillet 2024, la communauté internationale est de plus en plus émue par les dizaines de milliers de morts et les centaines de milliers de victimes à Gaza, mais aucune mesure n'est prise pour arrêter ce génocide du peuple palestinien. Le livre de l'historien Ilan Pappé, qui s'intitule « Le nettoyage ethnique de la Palestine » et qui a été publié en français en 2006, vient d'être réédité et il est tout à fait d'actualité, d'autant plus si l'on veut comprendre les véritables intentions du gouvernement israélien. Le soutien inconditionnel du gouvernement israélien par le gouvernement français, malgré le désastre de la guerre à Gaza, a conduit de nombreuses associations qui soutiennent le peuple palestinien à écouter l'historien Ilan Pappé. Ces propos ont été repris par très peu de grands médias français, mais plusieurs chaînes audiovisuelles présentes sur le net ont organisé des rencontres avec Ilan Pappé pour parler de son livre justement intitulé « Le nettoyage ethnique de la Palestine » et pour connaître aussi son point de vue sur l'actualité. J'ai choisi de vous faire entendre, pour commencer, un entretien que des journalistes de la chaîne Parole d'honneur ont conduit en juin 2024 avec Ilan Pappé. Nous les écoutons.
Donc Ilan Pappé, vous êtes un historien israélien, l'un des plus reconnus parmi ce qu'on appelle les nouveaux historiens israéliens. Vous avez été enseignant à Haïfa et vous êtes aujourd'hui professeur en Angleterre à l'université Dexter et vous êtes directeur du Centre européen pour les études palestiniennes. Vous êtes aussi évidemment partisan de la lutte de libération du peuple palestinien et surtout vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur l'État d'Israël et le sionisme, dont la guerre en 1948 en Palestine, les démons de la Nakba, les 10 légendes structurantes d'Israël et aussi le nettoyage ethnique de la Palestine, parmi d'autres évidemment. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur cette réédition aux éditions La Fabrique de l'ouvrage dont il est question aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que l'arrêt de la commercialisation chez les éditions Fayard, chez lesquelles vous étiez édité, est intervenu au moment où l'ouvrage fonctionnait bien, il recommençait à se vendre, notamment au regard de l'actualité à Gaza, et ça a beaucoup fait parler en France. Donc nous, on s'est beaucoup interrogé sur ça, et on était très heureux de voir qu'il a été réédité aux éditions La Fabrique, où il se vend également vraiment très très bien. Il est top 10 des ventes. On me le disait tout à l'heure. Moi, ma question, c'est: est-ce que vous avez eu d'autres expériences similaires à l'international? Est-ce que vous avez été surpris de ce qui s'est passé en France, et comment vous expliqueriez ce regain d'intérêt pour l'ouvrage ?
Tout d'abord, merci beaucoup d'être tous ici. Désolé pour ceux qui doivent rester debout, mais j'espère que cela en vaudra la peine. Même si vous êtes debout, et merci à La Fabrique d'avoir le courage de publier le livre. Étonnamment, je n'ai pas vécu une telle expérience ailleurs dans le monde, où le livre a été traduit de l'anglais vers une langue étrangère. Le seul cas peut-être similaire est en Israël, où, dont la France ressemble de plus en plus à Israël, où aujourd'hui, où c'était très difficile de trouver un éditeur, mais ce n'est pas l'éditeur qui a décidé de ne plus le publier. Et pourquoi y a-t-il un regain d'intérêt pour le livre? Je pense que tout d'abord, le titre « Nettoyage ethnique » se rapporte dans l'esprit des gens à ce qui se passe à Gaza. Et donc, il est très clair que les gens comprennent que le livre fournit le contexte historique des événements de Gaza. Et je pense aussi que, surtout, Gaza elle-même est étroitement liée à l'histoire de 1948. On en reparlera peut-être un peu plus tard, mais on ne peut pas comprendre tout le concept de la bande de Gaza sans remonter à 1948, parce que c'est l'année où la bande de Gaza a été créée. Il n'y avait pas de bande de Gaza avant 1948. Donc la bande de Gaza, l'idée de gens vivant dans une bande comme celle-ci, dans de telles conditions, c'est issu de 1948 ou de la Nakba, la catastrophe de 1948.
Pour que le public situe un peu plus où est-ce que vous vous situez, donc on a dit que vous étiez un historien israélien qui s'inscrivait dans le courant des nouveaux historiens israéliens, et pour que vous sachiez un petit peu, en fait c'est un courant qui a émergé dans les années 1980, où des acteurs, des témoins, des journalistes et surtout des historiens israéliens ont remis en question plusieurs des fondements sur lesquels s'était édifié l'État d'Israël, ébranlant le discours dominant. Et ce courant, il est souvent présenté comme se démarquant par sa rivalisation critique de l'histoire de la création de l'État d'Israël et évidemment du sionisme. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, notamment, vous le rappelez dans l'ouvrage par rapport au nettoyage ethnique, vous dites que le rôle que vous avez joué, globalement, hein, en tant que groupe, a été de contredire la thèse selon laquelle les Palestiniens étaient partis d'eux-mêmes de Palestine. Pourtant, assez rapidement dans l'ouvrage, vous développez aussi les limites de ce courant-là, et vous déclarez notamment: mais nous, les nouveaux historiens, nous n'avons jamais beaucoup contribué à la lutte contre la négation de la Nakba. Nous avons marginalisé la question du nettoyage ethnique pour nous concentrer sur des détails. Et moi, ma question, parce que vous en parlez aussi dans le livre, c'est pourquoi est-ce que pendant longtemps, peut-être, est-ce qu'on n'a pas cru ou entendu les Palestiniens ou les historiens palestiniens qui avaient écrit sur la Nakba et sur le nettoyage ethnique? Et comment est-ce que cette historiographie autour du nettoyage ethnique a pu évoluer, voilà, à travers ce courant-là, notamment?
Bien, pour commencer, les historiens palestiniens n'ont pas été écoutés ou ont été muselés, parce que cela faisait partie de l'attitude générale dans le monde universitaire occidental. L'islam, le monde arabe, ce que Edward Said appelait l'orientalisme, l'on n'a pas pris au sérieux les connaissances produites par la population venant du monde arabe. Dans le cas des historiens palestiniens, il y avait un obstacle supplémentaire pour qu'ils puissent se faire entendre. Et c'était le, ou qu'on peut appeler ça le lobby. Le lobby sioniste et plus tard le lobby israélien qui voulait contrôler le récit sur l'histoire de la Palestine. Et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'assurer que seul leur récit serait entendu, en particulier dans l'Occident, et pendant de nombreuses années, ils ont réussi à le faire. La dernière chose, avant de parler de comment cela s'est développé, et que le monde universitaire occidental en particulier désire ou demande en fait un certain type de source historique, source validée, un chapitre de l'histoire, dans ce cas des documents d'archives. Et les historiens palestiniens n'avaient aucun accès à ces archives. Et c'était très frustrant pour les historiens palestiniens de voir les gens accepter réellement leurs revendications seulement après qu'ils aient été étayés par des historiens israéliens appelés les nouveaux historiens. Si vous voulez, les historiens israéliens ont cachérisé le récit palestinien. C'est frustrant, si je peux ajouter deux phrases, car parfois, si un crime est commis et que vous n'entendez que la victime, les gens ne croient pas la victime. Mais si le criminel admet son crime, alors cela devient un fait. La critique que j'ai eue sur les autres nouveaux historiens est double. La première est que, et moi aussi, moi-même dans mes travaux antérieurs, n'avais pas relié le nettoyage ethnique de 1948 à l'idéologie sioniste. Et je pense que ce n'était pas une assez bonne analyse si on ne montre pas la connexion entre l'idéologie du sionisme et ce qui s'est passé en 1948. En fait, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, la deuxième critique concerne le fait que je ne pense pas qu'on peut être sans jugement moral sur ce qui s'est passé. Et on ne peut pas écrire sur un crime, surtout si vous faites partie de la société qui a commis le crime. Et ne pas parler des implications de l'histoire que vous racontez, c'est tout à fait entendu pour quiconque écrit sur la Shoah, l'Holocauste, mais c'est en quelque sorte interdit lorsque vous écrivez sur la Nakba. Quant au développement récent, nous avons une nouvelle génération d'historiens palestiniens et des historiens qui écrivent sur la Palestine, et ils ont apporté l'histoire orale, des témoignages de leurs parents, de leurs grands-parents, ce que nous a aidé à combler les lacunes de l'histoire. C'est donc un développement. Et le deuxième est que de nombreux historiens voient désormais le lien entre ce qui s'est passé en 1948 et des actes similaires contre les peuples autochtones dans d'autres projets coloniaux comme dans les Amériques et en Australie. Ainsi, l'introduction du paradigme du colonial de peuplement nous donne une meilleure compréhension de 1948 et aussi des événements d'aujourd'hui.
Dans les nouveaux historiens, ce n'est pas un groupe homogène, il y a des dissensions en interne, notamment on pense les désaccords que vous avez avec l'une des figures majeures des nouveaux historiens qui est Benny Morris. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes certainement la figure qui est en plus en rupture avec le mythe officiel israélien. Est-ce qu'il vous a fallu de ne plus pouvoir enseigner en Israël? Donc il y avait ça comme remarque et ça me pose la question, est-ce que maintenant c'est possible aujourd'hui en Israël de faire des recherches un peu plus objectives sur l'histoire d'Israël, et est-ce qu'il existerait des nouveaux historiens, c'est-à-dire des jeunes générations qui viennent un peu bouleverser des figures majeures comme Maurice et tout ça?
J'ai 70 ans et j'espère que quand j'arriverai à 80 ans, on ne posera plus la question sur Benny. Pas besoin de traduire, je pense. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Oui, j'ai certainement pas vraiment de désaccord avec Maurice. Sur les faits, mais sur l'interprétation des faits, donc il ne s'agit donc pas d'une dispute entre des gens qui disent que les Palestiniens n'ont pas été expulsés et l'autre camp dit qu'ils ont été expulsés. Non, nous disons tous les deux qu'ils ont été expulsés, mais je l'explique comme le résultat d'une idéologie, comme un crime contre l'humanité. Et il dit, ce n'est pas ce qui se passe en temps de guerre, et Israël a dû le faire pour survivre. Et oui, aussi pour aller plus loin, je l'ai fait, vous met dans une confrontation beaucoup plus directe. Et à cause de cela, j'ai été expulsé de mon université de Haïfa. Non seulement parce que j'ai parlé de nettoyage ethnique, mais parce que j'ai défié la validité morale et justification de l'ensemble du projet sioniste. Et c'est trop pour le monde universitaire là-bas. Quant à la question de savoir s'il y a de nouveaux historiens, malheureusement, il y a de jeunes historiens qui sont de très vieux historiens. Toute l'université israélienne bouge. À une époque, un âge où elle est très obéissante aux récits sionistes, elle s'autocensure. Je ne m'attends donc pas beaucoup à de nouveaux bons travaux sur 1948 ou sur le sionisme, issus du monde universitaire israélien. Il existe cependant des historiens israéliens, notamment de jeunes historiens israéliens, qui ont quitté Israël et font un excellent travail pour poursuivre la recherche tant sur le sionisme et sur 1948 en particulier. Si je peux ajouter quelque chose, je ne sais pas s'il y a des universitaires ici qui sont enseignants, mais c'est très frustrant. Mais c'est très frustrant quand on enseigne. C'est ce que j'ai vécu en Israël quand vous êtes bien plus radical que vos étudiants. C'est une chose sur laquelle même un bon psychologue ne peut pas se prononcer. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'historien israélien Ilan Pappé. Ilan Pappé s'entretient avec des journalistes de la chaîne Parole d'honneur en juin 2024, c'est-à-dire plusieurs mois après le 7 octobre 2023 et le massacre des Palestiniens par l'armée israélienne.
J'avais aussi une question par rapport à la particularité de votre position. Donc, vous l'avez dit, vous avez été à quitter Israël pour l'Angleterre. Et notamment parce que, c'est vrai, votre position est particulière parce que la société israélienne est quand même acquise au sionisme. Même on en a parlé, hein, les mobilisations en Israël contre Netanyahou. Elles sont contre Netanyahou pour le retour des otages, mais elles ne sont pas forcément pour l'arrêt de la guerre. Et elles ne le sont même pas du tout, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, vous êtes minoritaire. Les intellectuels comme vous sont minoritaires. Même les personnalités comme vous sont minoritaires en Israël. Et moi, ma question, c'est comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Dans votre trajectoire professionnelle, à quel moment est-ce que vous êtes devenu... Enfin, qu'est-ce qui a fait dans votre trajectoire qu'à un moment, vous êtes passé d'un...
La rupture, quoi.
Tout d'abord, je tiens à dire qu'il y a plusieurs autres dans la société israélienne qui partagent ces points de vue. Je ne suis pas totalement seul, mais nous sommes une minorité absolue. Cela ne fait aucun doute. Je pense que dans mon cas, et peut-être dans celui de certains de mes amis, qui souscrivent à des points de vue similaires, c'est un voyage. Cela n'arrive pas en un instant. Il n'y a pas d'épidémie. Nous ne vous réveillez pas tout à coup pour devenir... C'est une combinaison de la carrière professionnelle que j'ai choisie en tant qu'historien en me penchant sur l'histoire de mon propre pays. C'est l'année de formation de 1948 et en regardant à travers les archives et en voyant des choses qui contredisaient le récit que je connaissais avec lequel j'ai grandi et une certaine constitution morale, une certaine vision du monde avec lequel vous pouvez mieux vous développer lorsque vous êtes à l'extérieur du pays que dans la société. Alors, le fait de faire le doctorat, la thèse sur 1948 en dehors d'Israël, m'a aidé. Le fait que j'ai fait pendant l'invasion d'Israël du Liban en 1982 et aussi a été aussi un facteur très important en comprenant que la guerre peut être déclenchée par Israël. C'est pas toujours une autodéfense légitime comme ils le prétendent. Et bien sûr, vous rencontrez, je termine sur cela, vous rencontrez en dehors d'Israël des Palestiniens sur un pied différent. Et j'ai rencontré beaucoup de collègues et d'universitaires palestiniens dans un environnement différent où nous étions plus égaux et cela a aussi contribué à façonner ma vision du monde. Mais comme je l'ai dit, cela a pris du temps. Cela n'arrive pas en un jour. C'est un long voyage.
On va parler un peu plus du livre, donc « Nettoyage ethnique en Palestine ». Alors c'est un livre assez dense. Qui est très fouillé, très détaillé. Il y a beaucoup de pages où vous montrez la destruction de certains villages, vous montrez les exactions qui ont été commises, ce qui a été détruit, les terres volées. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué en lisant ce livre, c'est que ça traite de 48, mais en fait, en réalité, quand on lit, on voit que c'est totalement d'actualité. Et pas seulement avec les événements récents, c'est d'actualité dans le sens où dans ce nettoyage ethnique, il y a des choses, des événements qui hantent Israël, mais aussi des logiques idéologiques qui traversent encore l'État d'Israël. Et donc c'est encore plus d'actualité maintenant avec le massacre en cours. Et moi, j'avais une question pour commencer. Je sais que, ce que vous appelez le nettoyage ethnique, c'est ce que les Palestiniens appellent la Nakba. Et il y a un discours palestinien qui parle même de Nakba perpétuelle. Est-ce que là, avec ce qui se passe, on pourrait parler d'une nouvelle Nakba ou alors d'une Nakba perpétuelle, mais avec une intensité plus grave ?
Pour commencer, je pense que c'est vrai que le type de politique et de méthode qu'Israël utilisait en 1948 et la logique derrière ses actions se répète aujourd'hui. Je vais donner juste deux exemples. L'un est la perception de tout l'espace civil dans lequel les Palestiniens vivent, que ce soit dans un village, un quartier, ils sont perçus ou regardés comme des bases militaires ou des bases ennemies. Et par conséquent, ce n'est pas un endroit où des femmes, des enfants, des vieillards, des non-combattants vivent. C'est tout le village, le quartier entier, qui est un territoire ennemi qui doit être détruit. C'était très clair dans les ordres donnés par l'armée israélienne à ses troupes en 1948. Et cela se répète maintenant. Dans les ordres de l'armée israélienne donne aux troupes à Gaza, le deuxième exemple, c'est la réaction internationale. C'était un peu plus pardonnable en 1948. Il n'y avait ni télévision, ni Internet. Ça a pris du temps pour que les actualités arrivent en dehors de la Palestine. Mais bien sûr, c'est beaucoup moins compréhensible aujourd'hui où les gens peuvent regarder quotidiennement le génocide sur leur smartphone, à la télévision et sur Internet. Mais la réaction internationale des gouvernements et des grands médias a été très similaire. Et on peut ajouter deux points supplémentaires qui sont importants. L'un est le récit que les Israéliens ont fourni au monde et à eux-mêmes. Pourquoi ils font ce qu'ils font? C'est très similaire à 1948 et aujourd'hui. Et c'est en mettant en relation la résistance palestinienne avec le nazisme, avec l'antisémitisme classique ou avec le fanatisme islamique. Ces éléments, en expliquant ce qu'ils appelleraient la violence palestinienne, qui justifiait la violence israélienne, cela était déjà présent en 1948 et cela joue bien sûr un rôle très important dans le récit d'Israël aujourd'hui. Deuxièmement, c'est le soutien total de la société juive aux actions. C'est très inquiétant. Car tu penses que ce n'est pas parce que les Juifs israéliens n'étaient pas au courant du nettoyage ethnique en 1948 ou les Juifs israéliens d'aujourd'hui ne connaissent pas le génocide. C'est la raison pour laquelle ils soutiennent le gouvernement. Ils le savent et ils ne s'en soucient pas. Et cette déshumanisation est très typique des mouvements coloniaux de peuplement et la manière dont ils voient les peuples autochtones. Vous devez, si c'est ce qu'on dit en arabe, Nakba, la Nakba continue. Ou est-ce que c'est une situation très différente? Chapitre dans les actions israéliennes contre les Palestiniens. Je pense que cela fait partie d'un processus continu. Parce que, comme le colonialisme de peuplement, les actions de la communauté des colons contre les autochtones sont ce que nous appelons dans l'histoire une structure. C'est une structure. Nous entendons par cela que la même idéologie, le motif des actions contre les Palestiniens, la nature de l'action change selon les circonstances historiques et le niveau de résistance palestinienne à ces actions, l'attitude de la région, l'attitude du monde. Mais ceci est un autre chapitre. J'ajouterai que malheureusement, dans le cas de Gaza, et je crains qu'à l'avenir, dans le cas de la Cisjordanie, le nettoyage ethnique ne fait apparemment pas son travail en ce qui concerne Israël. Le travail qu'il était censé faire, c'était d'avoir autant de la Palestine que possible avec le moins de Palestiniens possible. Mais de le faire avec le nettoyage ethnique, ça ne suffit pas. Et c'est pourquoi je pense qu'Israël utilise désormais le génocide comme moyen d'atteindre l'actif, le principal objectif, du mouvement. D'avoir autant de la Palestine que possible avec le moins de Palestiniens afin qu'Israël puisse créer un État juif viable et sûr, et la légitimité du génocide dans le discours israélien actuel. La légitimité du génocide comme une action sur le terrain. La capacité d'Israël à dire aux gens en France de ne pas utiliser le mot génocide est très inquiétant compte tenu du fait que c'est actuellement la principale tactique israélienne.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'ouvrage, c'est la façon dont vous démontrez, vous faites une démonstration de la planification du nettoyage ethnique, c'est-à-dire c'est pas arrivé comme ça en 48 ou beaucoup plus tard ou voilà. En fait, c'est vraiment une construction, un projet qui a été planifié et dans le détail. On voit les pages où il raconte par exemple les dossiers qui sont réalisés sur les villages palestiniens.
Ils sont très transparents.
Très transparents. Voilà, sur le fichage des Palestiniens pour savoir où sont les résistants palestiniens, dans quelle famille, qui a participé à telle révolte de 36, etc. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et vous dites, vous affirmez dans l'ouvrage, le paradigme du nettoyage ethnique doit remplacer celui de la guerre. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que le paradigme de la guerre, moi, je le comprends comme ça, c'est celui qui est sioniste, c'est celui qui dit, voilà, tout ce qui nous arrive, toutes les guerres qu'on mène, c'est seulement parce qu'on nous attaque. C'est toujours la faute des Arabes, c'est eux qui nous envahissent, par exemple, en 46, après le plan de partage, ils disent, voilà, il y a eu l'invasion arabe qui sort de nulle part. Alors que non, il y a le plan de partage, ensuite il y a les révoltes, il y a les révoltes, et il y a un début d'exode avec 75 000 Palestiniens qui s'en vont. Et donc vous vous dites là, il faut renverser le truc et dire on n'est pas dans un paradigme de la guerre, mais on est dans un paradigme de nettoyage ethnique, où donc il y a une explication en fait sociologique, académique, qui permet de dire bah en fait il y a une construction sociale qui fait de dans l'autre camp aussi, on prépare la guerre en fait. Et moi je veux savoir pourquoi est-ce que la formule de nettoyage ethnique vous l'avez choisie? Qu'est-ce qui vous permet de comprendre à l'histoire de la Palestine, notamment parce que c'est une catégorie juridique aussi, nettoyage ethnique, pourquoi pas une autre?
Le terme que les gens utilisaient jusqu'à ce que j'écrive ce livre, c'était la Nakba, la catastrophe. Et l'inquiétude principale que j'avais sur ce terme, même si je le respecte, que les Palestiniens le vivent. Le problème, c'est qu'une catastrophe peut être une catastrophe naturelle. On n'a pas de responsable dans une catastrophe. On a seulement des victimes. Et je pensais que cela n'expliquait pas assez bien non seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce qui peut arriver. Et donc, je cherchais un terme qui expliquait quel était le motif principal du mouvement sioniste derrière les actions qu'ils ont entreprises en 1948. Le grand penseur du colonialisme de peuplement, Patrick Wolf, regretté penseur, il disait que quand les colons, comme les juifs, venus en Palestine, des colons, qui sont venus d'Amérique en Australie étaient généralement eux-mêmes des réfugiés, victimes eux-mêmes de persécutions, il y avait des gens dont l'Europe ne voulait pas. Et ils voulaient créer une nouvelle Europe ailleurs, mais ils ont choisi des endroits où il n'y avait pas de population et la rencontre entre ces exilés d'Europe et les autochtones locaux, à ses yeux, a créé ce qu'ils appellent la logique de l'élimination de l'indigène. Et j'étais très conscient de cette idée. Et je pensais que l'élimination n'est pas toujours synonyme de génocide, tel qu'on l'a vu par exemple en Amérique du Nord. Il existe peut-être d'autres moyens par lesquels de tels mouvements de colons se débarrassent de la population locale. Et le nettoyage ethnique, quand j'ai regardé les définitions de l'État, même celles du département d'État de l'USA, que j'apporte dans le livre et aux Nations Unies, ou celles des penseurs, à ceux qui s'est passé en Palestine depuis le début de la planification de l'opération jusqu'aux toutes dernières étapes par lesquelles l'entité menant le nettoyage ethnique tente d'effacer la mémoire de ceux qui ont été les ethniquement nettoyés ou expulsés. Je veux juste ajouter l'une des autres raisons ou l'autre raison pour laquelle j'utilise le terme nettoyage ethnique, que la langue utilisée en 1948 par les généraux israéliens qui ont planifié les opérations contre les Palestiniens inclut dans de nombreux cas le mot nettoyer en hébreu. Il parlait de nettoyer. Le mot, pour ceux qui connaissent l'hébreu, c'est haleher, nettoyer. Le village, pour nettoyer la ville. Et certaines des opérations qui ont donné un nom de code pour chacune attaque contre les villes ou les villages, et certains des noms de code contenaient le mot nettoyage, non nettoyage ethnique bien sûr, ce n'est pas le mot mais nettoyage. Et il était très clair que ce n'était pas une coïncidence. Ce n'est pas un ordinateur qui a choisi ces mots. Ce sont les gens qui étaient derrière les opérations qui utilisent ces idées. القلب حزين وهذه سنين تدمع العين يا حبيبة يا فلسطين عهيا وين العرب صهيون لطمعي فيه
Je suis comme toi, je pense tenir sur une branche. J'enchaîne nuit blanche après nuit blanche. Fauché par la stupeur, je regarde des images qui fendent le cœur. Ils glissent leurs piètres mensonges, impuissants face à l'une des plus grandes injustices des siècles. Où est le mal tenace, mais comment je pourrais m'imaginer deux secondes à leur place.
Alors imagine les faire sous occupation. Imagine qu'on vient convoler tes terres, puis ta maison. Une violence qui culmine de voir sous tes yeux ouais, ton frère, ta fille, ta mère qu'on assassine. Imagine l'abîme comble de l'obscénité. En plus de tout savoir, le bourreau se poser en victime. Envie d'arracher l'impuissance de ses artères. Mais cette impuissance ne doit jamais nous faire taire. Malgré la douleur, dans les pires moments de l'histoire, le silence a toujours été du caviar pour l'oppresseur. Tenir en gueulant le peuple palestinien lutte pour ce à quoi chaque peuple aspire depuis la nuit des temps. Ni oubli ni pardon tout au long de l'histoire. On a mémoire, on sait ce qu'ont valu les colons. Leur valeur mortifère, leur cortège de misère. Ils t'humilient, te traitent d'animaux dans ta propre terre. Te massacrent à outrance et les monstres exigent de toi en plus que tu meurs en silence. Huria dans le sang, la lueur persiste quand tout ton ADN, frère, sœur, te crie résiste.
عليك القلب حزين وهذه سنين تدمع العين يا حبيبة يا فلسطين اه يا وين العرب نايمين اه يا زينة البلدان قومي ربي يحميك من ظلم الخا والعديان والصهيون لي طمعين فيك ما نسمح فيك يا غزة مع القريب علي بعيد
المشاكل
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'historien israélien Ilan Pappé. Ilan Pappé s'entretient avec des journalistes de la chaîne Parole d'honneur en juin 2024, c'est-à-dire plusieurs mois après le 7 octobre 2023 et le massacre des Palestiniens par l'armée israélienne.
Ce qu'on remarque dans le livre, c'est que c'est pas un incident de l'histoire, c'est pas quelque chose que, en fait, Israël aurait voulu éviter de faire, mais qu'ils ont été contraints de faire à cause des menaces extérieures, mais qu'en fait, ça découle de l'idéologie sioniste, qui a une vision ethnique, en fait, des populations. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, entre guillemets, de voir que toutes les démocraties soutiennent un pays qui a vraiment une conception ethnique de ce qu'elle est, de son identité. On voit que ce qui hante vraiment les dirigeants sionistes, c'est la question démographique. Et en fait, on voit que l'idéal, dès le départ, même s'ils acceptent le plan de partage de manière pragmatique, dès le départ, ils ont vraiment l'idée d'un État qui serait dans l'idéal exclusivement juif, ou au pire, mais vraiment au pire, à 60% juif. Et justement, est-ce que l'une des questions majeures qui traverse les dirigeants israéliens, même maintenant, c'est pas en fait la question démographique?
Oui, je pense que chaque projet de colonisation de peuplement fonctionne dans deux dimensions. L'espace et la population, ou si vous voulez, démographie et géographie, on arrive dans un nouveau pays. On veut avoir l'espace sans les gens qui s'y trouvent. Et chaque fois qu'on acquiert plus d'espace, on fait face à plus de problèmes et de défis démographiques. C'est pour ça qu'il y a l'obsession de ce qui est si particulier au sionisme et qui n'est pas typique des autres mouvements coloniaux, c'est que, ironiquement, ils étaient tellement obsédés par le nombre de Palestiniens qui seraient non seulement en Palestine, mais sous leur propre domination, parce qu'ils voulaient construire un État juif démocratique. Et si vous voulez une démocratie juive qui avait besoin d'une démocratie juive, et il était très clair que même dans le cadre du plan de partage évoqué, si des Palestiniens n'avaient pas été expulsés de force de Palestine, quoi que soient les frontières d'Israël dans les premières élections en Israël, les Juifs n'auraient pas été majoritaires. Alors que le bien de la démocratie, se sont-ils expliqués, nous devons expulser les Palestiniens. C'est un peu comme les bombardements des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak, pour en faire une démocratie.
Mais justement, pour rebondir sur ça, il y a aussi une figure qui traverse tout le livre, c'est Ben-Gourion. Ça repose beaucoup sur son journal, et donc c'est l'un des acteurs majeurs de ces nettoyages ethniques. Il faut reconnaître à Ben-Gourion qu'il a il est extrêmement pragmatique, il est très stratégique, il est très froid, il sait comment remplir les objectifs. Et il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est l'idée de moment opportun. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit les décisions d'Israël, par exemple, d'accepter, de faire comme s'ils acceptaient la partition, mais de profiter d'un moment pour procéder à ce qu'ils avaient en tête, c'est-à-dire le nettoyage ethnique. Et on voit ça tout le long d'Israël, ce côté vraiment pragmatique. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose? Est-ce qu'on pourrait faire le même parallèle avec l'actualité? C'est-à-dire que il y a eu les attaques du 7 octobre. Israël a voulu se venger, mais en même temps, s'est dit que c'était le moment opportun pour remplir des objectifs de reconquête de territoire et de, on le voit, et d'essayer de faire vider la population dans les autres États arabes.
Tout d'abord, je me souviens qu'en 2010, j'avais écrit au maire de Paris. Ou peut-être que c'était l'un des maires de l'un des quartiers. Ils avaient donné le nom de Ben-Gourion à une avenue, un boulevard. Et je lui ai écrit, c'était un homme, je m'en souviens, en lui disant qu'ils allaient donner le nom d'une rue à un criminel de guerre. Et peut-être qu'il devait réfléchir à deux fois. En fait, il a répondu avec 10 pages... sur l'histoire du sionisme et d'Israël qui remonte à l'Holocauste. Donc j'ai décidé de ne pas poursuivre la correspondance. Et je pense qu'il y a encore une rue Ben Gourion, vous pouvez voir. Alors j'ai échoué. Oui, je pense qu'il a été très intelligent en exploitant le moment historique. Aujourd'hui encore, c'est la même chose, mais un peu différent. Vous avez raison, le 7 octobre, aux yeux particulièrement du nouveau type de sionisme que nous avons, le sionisme messianique qui a gagné les élections en novembre 2022, celui qui a probablement le soutien de 60 à 65% des Juifs en Israël, pour eux, c'est un moment historique de pouvoir reprendre la Cisjordanie, la bande de Gaza, et créer le nouveau royaume juif qui sera plus théocratique, avec un très petit nombre de Palestiniens. Et c'est ainsi qu'ils voient l'opportunité que l'attaque du Hamas du 7 octobre leur a fournie. En fait, pour beaucoup, je voudrais simplement dire deux choses. Premièrement, à cause de cela, en Israël, il y a un sentiment croissant qu'il y a eu un complot le 7 octobre. Et le temps vous dira si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais il existe des indications troublantes qui sont possiblement vraies, au moins que l'armée n'est pas intervenue dans l'attaque du Hamas, même si elle a pu, afin de donner l'opportunité de faire ce qu'Israël a fait par la suite. Les questions très troublantes de savoir pourquoi l'armée ne faisait rien pendant 8 à 10 heures alors qu'elle était déjà là. Je ne dis pas, et c'est vrai, ni que c'est un mensonge, je dis que même les gens en Israël pensent que c'est utilisé comme une opportunité par ce genre particulier de sionisme messianique. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a 10 jours, le lobby de ces sionistes messianiques a tenu un grand meeting à Jérusalem, dirigé par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, et d'autres membres éminents du Parlement et du cabinet. Ils détaillaient les plans de colonisation juive dans la bande de Gaza, qui comprenait le déplacement de la population de Gaza vers l'Égypte. Ils ont même laissé entendre qu'ils avaient un accord avec le président égyptien Sisi sur la construction d'une immense mégapole pour les réfugiés dans le Sinaï. Mais ce qui est intéressant et troublant, c'est qu'ils disaient aussi qu'ils se préparaient à construire des colonies juives dans le sud du Liban, parce qu'Israël va envahir le sud du Liban et repousser le Hezbollah au nord du fleuve Litani. Et pour eux, si le fleuve Litani est la frontière au nord, le fleuve Jourdain est la frontière à l'est, la mer à l'ouest et le Sinaï au sud. C'est plus ou moins la recréation du royaume biblique qu'ils veulent toujours construire. Et j'ajouterai que cela inclut aussi des idées sur comment remplacer la mosquée Al-Aqsa par la troisième temple de Jérusalem.
Mais justement, ça me permet de rebondir sur ça, sur l'invasion du sud Liban, ce qui amuse beaucoup dans le discours d'Israël, c'est que aujourd'hui, par exemple, on dit que Israël doit mener cette offensive, c'est le discours officiel, pour éviter sa destruction, parce que en fait, il y aurait une menace existentielle, alors que dans les faits, on assiste plutôt à la disparition de la Palestine et à la fortification de l'État d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est aussi pour faire un parallèle en 48, c'est que on voit qu'il y avait aussi le même discours qui était donné. Et même, je pense que beaucoup dans l'imaginaire commun, quand on parle de la Palestine, on a aussi cette impression-là que, bah, en fait, il y avait une offensive arabe extrêmement forte à l'époque, et que, voilà, à la guerre comme à la guerre, Israël a dû se défendre. Mais en fait, vous montrez que, un peu comme maintenant, à l'époque, c'était pas du tout le cas, que y avait pas vraiment de coalition arabe forte, et que même certains États arabes ont joué double jeu.
Je pense que c'est un peu différent. Nous devrions faire la différence entre le fait qu'Israël prétend que le génocide est un acte d'autodéfense, que ce n'est pas un acte d'autodéfense, c'est un génocide. D'un autre côté, je pense que la façon dont Israël agit constitue un danger existentiel pour Israël. Il se met maintenant dans une position qui rendrait très difficile à l'avenir que les dirigeants et régimes arabes normalisent leurs relations avec Israël. Ça complique la tâche du tribunal juridique international, comme nous l'avons vu, de garder le silence sur ce qu'il fait. Donc, c'est très difficile pour les communautés juives du monde entier de le soutenir. Et on voit que la jeune génération juive, notamment aux États-Unis, critique maintenant Israël, prend ses distances avec Israël, et ça restreint vraiment avec Israël ou réduit l'alliance qui donne à Israël son pouvoir d'exister. Et ce n'est qu'une partie des problèmes qu'a Israël. Il y a aussi des problèmes internes et des problèmes économiques. Je pense donc que l'action israélienne n'a pas pour but de survivre, mais ça contribue de manière significative à sa propre disparition. Je ne pense pas si les Israéliens s'en rendent compte ou non, et je ne dis pas qu'en tant qu'activiste, je le dis en tant qu'universitaire qui analyse Israël depuis de très nombreuses années.
ما بعتي منكي للكم خلعة ولا لا 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 بدي زو النار بين ليل يامان يامان عين ليل الهنا يا روح إلا غزال ليل اللي ذي جوين ليل اللي كم محبوس بين ليل يامان يامان عين ليل الهنا يا روح ما بعتي منكي للكم خلعة ولا to the sea, my
People tasted freedoms in those hellish skies, turns of blue and starry nights. As our voices start to rise, we're ending an apartheid.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'historien israélien Ilan Pappé. Ilan Pappé s'entretient avec des journalistes de la chaîne Parole d'honneur en juin 2024, c'est-à-dire plusieurs mois après le 7 octobre 2023 et le massacre des Palestiniens par l'armée israélienne.
La responsabilité de l'ONU dans le nettoyage ethnique, tout simplement parce que vous dites que ce plan de partage-là, quand il est voté en novembre 47, vous dites il y a une atmosphère, une conviction que la partition signifiait l'affrontement total. Et aussi, vous reprochez à l'ONU, et notamment avec la résolution 181, qu'elle n'a rien prévu pour prévenir ou empêcher le nettoyage ethnique, là où, dans les discours dominants, on entend souvent « oui, c'est la faute des Palestiniens, ils n'ont pas accepté le plan de partage, etc. etc. » Là, vous dites à l'inverse, comme ce plan de partage, il est profondément injuste, antidémocratique, etc., bah, c'est la source de ce qui va suivre ensuite. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi est-ce que ce plan de partage-là, il a été dévastateur pour la suite ?
Oui, pour commencer, il est vrai que l'une des affirmations israéliennes les plus importantes, qui est même acceptée par certains amis de la Palestine, c'est que les Israéliens ont accepté le plan de partition et que les Palestiniens l'ont rejeté. Et c'est pour ça que le conflit, en quelque sorte, s'est poursuivi. Les Palestiniens ont raté une opportunité d'avoir leur propre État. Et il est très important de briser ce mythe, parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Tout d'abord, il faut rappeler que les Nations Unies en 1947, lorsque le plan de partage a été adopté, ne représentait pas le monde colonisé. Seuls les colonisateurs, le seul membre colonisé, c'était le Libéria. Et par conséquent, c'était une ONU qui justifiait vraiment tout ce que le colonialisme britannique, anglo-français ou l'impérialisme occidental américain voulait voir se produire dans le monde. C'est donc une chose à retenir. Ce n'était pas l'ONU qui, en 1975, lorsque le monde décolonisé était représenté dans l'Assemblée générale, a assimilé le sionisme au racisme, ce qui reflétait beaucoup plus l'attitude mondiale à l'égard du sionisme que la résolution sur la partition. C'est donc ça le premier point. Le deuxième point, c'est que l'ONU a compris dès le début que les Palestiniens n'accepteraient pas la partition. Peu importe si les Palestiniens ont raison ou rejeté ou non. Je pense qu'ils ont eu raison de refuser, car il n'y avait aucune raison de céder la moitié du pays à un mouvement de colons, dont la plupart étaient arrivés juste quelques années plus tôt, donc ça ne m'étonne pas qu'ils n'aient pas accepté. Mais ça n'a même pas d'importance dans la manière dont les États-Unis sont comportés si vous avez deux groupes. L'un représentant 2/3 de la population et l'autre 1/3 de la population. Et que les 2/3 de la population disent « nous n'acceptons pas votre idée de solution », tu ne dis pas « ok, tu dois l'accepter » et « nous n'allons rien faire d'autre, rien de plus ». C'était ridicule. Si les Palestiniens n'acceptaient pas la partition, ils ont dû poursuivre les négociations jusqu'à ce qu'ils parviennent à un accord. En fait, comme le montre dans le livre le département d'État américain, le ministère des Affaires étrangères aux USA, suivez cette logique. Et quand les Palestiniens ont dit non à la partition, ils ont dit d'accord, écoutons les Palestiniens. Et ils ont parlé aux Palestiniens, contrairement aux Britanniques et aux Français et aux autres. Et les Palestiniens leur ont dit, ce que nous voulons, c'est un État démocratique en Palestine. Un État démocratique unique en Palestine. Et pendant quelques semaines, c'était la position américaine. Les gens ne le savent pas. C'était la position officielle américaine jusqu'à l'époque de département d'État américain, contrairement à aujourd'hui, consistait de diplomates qui avaient beaucoup d'intérêts. Ils parlaient français, connaissaient le monde arabe, et c'est pour ça qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'une demande palestinienne légitime. Mais sous la pression du lobby sioniste aux USA, et parce que c'était une année électorale aux USA, le président de l'époque, Harry Truman, n'a pas permis que ça reste la position officielle américaine pendant trop longtemps. Donc l'ONU, si je résume sa responsabilité, elle est responsable. Donc l'ONU, pour ne pas suivre un programme de paix qui aurait été accepté par les deux côtés, deuxièmement, dans son propre programme de paix, il a déclaré qu'elle serait responsable en tant qu'organisation, elle serait responsable pour la vie, la propriété et la dignité du peuple de Palestine, quoi qu'il arrive. Et ils n'ont pas respecté leur engagement. C'est donc une organisation qui a servi les idées occidentales, qui a essayé de les imposer aux Palestiniens et n'a rien fait quand cette imposition s'est transformée en nettoyage ethnique.
Vous montrez aussi qu'à l'époque, les États-Unis, pendant un temps très court, ils ont été plutôt favorables sur la question des réfugiés avant que ça change. Comme vous dites, il y a la question des élections, il y a la question du lobby sioniste qui est aux États-Unis. Il y avait aussi, on était en 48 et c'était 3 ans après la Shoah, donc il y avait une sorte de grande culpabilité qui faisait que autant les États comme les Britanniques avaient un peu du mal à réagir que même les instances internationales. Par contre, est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que 70 ans après, il y a toujours la même apathie. L'ONU condamne, mais il n'y a pas vraiment d'actions qui sont menées. Et on voit que les démocraties occidentales continuent à afficher, dans leur majorité, même s'il y a des exceptions, un soutien à Israël. Et que parfois, on peut ne pas comprendre parce qu'on se dit que ça peut aussi desservir tout le discours occidental qui se dit pro-démocratie, pro-liberté, du côté du droit international. Donc la question, est-ce que vous avez une explication de pourquoi ces États occidentaux continuent à maintenir un soutien à Israël malgré les horreurs qu'on voit tous?
C'est une bonne question. Et je viens de terminer un livre intitulé « Le lobbying pour le sionisme des deux côtés de l'Atlantique ». Et c'est un livre très long car il a besoin d'une histoire très détaillée pour expliquer pourquoi ce genre d'exceptionnalisme et d'immunité est accordé par l'Occident à Israël. C'est quelque chose qui s'est développé historiquement. En Europe, il y a 150 ans. En Amérique, il y a 100 ans. Et parce que ça existe depuis si longtemps, tout d'abord, que c'est très efficace. Quand un lobby existe depuis très longtemps, son travail est plus simple. Ça veut dire que les hommes politiques français, allemands, les politiciens britanniques et américains savent exactement ce qui est attendu dans la politique envers Israël, même si le lobby ne fait pas directement pression sur eux. C'est donc la première chose à comprendre, c'est un projet très ancien. Deuxièmement, il est important de comprendre qui se cache derrière ce projet de lobbying, que j'essaie de montrer dans le livre. Un groupe important est le christianisme évangélique. Pas tous les chrétiens évangéliques, mais tous les chrétiens protestants. Mais un courant très important du christianisme protestant et évangélique a en réalité conçu le projet sioniste avant même qu'il ne devienne un projet juif. La raison peut-être que certains d'entre vous connaissent qu'ils croient que ce qu'ils appellent le retour des Juifs en Palestine, qu'ils ramèneraient Jésus-Christ, la résurrection des morts et le début de la fin des temps. Alors, tout d'abord, il y a un groupe théologique de chrétiens qui, encore aujourd'hui et dès le milieu du XIXe siècle, croyaient en soutenant Israël et pas seulement soutenir l'idée d'un État juif, mais rendre l'État juif viable était un impératif religieux. Comme nous le savons aux États-Unis, il ne s'agit pas d'un petit groupe. Il s'agit d'un très grand groupe d'Américains qui y croient. Et il y a aussi des gens qui y croient en Suède, en Allemagne, et il y a des sionistes chrétiens partout. J'ai découvert récemment, même en Malaisie, parmi la communauté chrétienne chinoise, c'est donc un groupe, c'est un groupe puissant. Le deuxième groupe qui a soutenu le sionisme et qui a veillé à ce que les gouvernements occidentaux ne s'écartent pas d'une politique pro-sioniste puis pro-israélienne, sont les dirigeants de la communauté juive occidentale. Maintenant, qu'est-ce que est intéressant pour les dirigeants des communautés juives? Et je vais être un peu polémique, comme si j'avais fait dans le consensus toute ma vie. Les dirigeants de la communauté juive en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, ne s'était jamais vu vivre en Palestine. Très tôt, avant l'Holocauste, mais même après l'Holocauste, la raison pour laquelle ils voulaient que les Juifs aillent en Palestine était la grande crainte d'antisémitisme étant très fort. L'Europe centrale et orientale poussait les Juifs vers l'Ouest. Ils ne voulaient pas que les Juifs d'Europe de l'Est viennent en particulier en Grande-Bretagne et en Amérique, particulièrement en Grande-Bretagne et en Amérique. Donc, vous avez une communauté juive très puissante qui, oui, souffre de l'antisémitisme, mais font partie de l'élite. Mais ils font partie de l'élite politique, ils font partie de l'élite culturelle, ils font partie de l'élite économique de l'Occident. En fait, ils constituent une partie importante de ces élites. Et ils veulent que les Juifs soient en Palestine, mais pas eux, pas leur groupe de Juifs. Il y a des conversations connues entre les premiers dirigeants du sionisme avec des hommes politiques britanniques et américains qui tentent de convaincre, de soutenir l'idée de transformer la Palestine en un État juif avant que cela ne se produise. Et il leur disait, si vous ne nous aidez pas à créer un État juif en Palestine, tous les Juifs d'Europe de l'Est viendraient chez vous. Et ils sont pauvres, et ce sont des bolcheviks, et ils vont vous semer du trouble. Donc ça n'est pas la deuxième raison, je rappellerai, l'aristocratie ou l'élite juive. Le troisième groupe qui se développera bien sûr un peu plus tard, mais qui change un peu l'histoire, c'est ce que j'appelle le soutien impérialiste au colonialisme juif. Soit dans le passé c'était le colonialisme britannique, le colonialisme français qui considère l'État juif comme un atout, à la fois à cause de l'islamophobie, mais aussi à cause de l'antisémitisme. On aurait un État juif européen au Moyen-Orient, ce qui est mieux que d'avoir un État musulman en Palestine. Il n'y aura pas de juifs en France, c'est la meilleure chose pour les antisémites de soutenir Israël. À condition que les juifs de France soient prêts à partir en Israël. Autrement, l'antisémitisme ne fonctionne pas. Puis, c'est devenu l'impérialisme, avec les USA considérant Israël comme un bastion impérialiste, l'ultime base contre la barbarie dans le monde arabe. Et l'impérialisme est constitué de sociétés multinationales, industrie militaire, industrie de sécurité. Alors, vous avez ce qu'on peut appeler ces trois piliers. Ces trois piliers qui assurent un soutien constant pour Israël, un soutien inconditionnel à Israël, ce qui est important. Les sionistes chrétiens, le juif, communauté, et ce qu'on peut appeler le complexe militaro-industriel, vous pouvez l'appeler la politique de l'impérialisme, mais c'est plus cynique, ce n'est pas idéologique. Bien qu'il y ait une certaine idéologie du néoconservatisme, mais ce n'est pas généralement ceci. C'est un soutien très pratique. À présent, ce que les universités peuvent faire, et ils ne le font pas toujours, c'est de différencier, de faire la distinction entre le récit et les raisons. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai lu beaucoup de choses, y compris en France, des gens qui disent que le soutien d'Israël vient du complexe de culpabilité lié au comportement de la France pendant la Shoah, pendant l'Holocauste. Certainement, on entend en Allemagne des gens dire « Qu'attendez-vous de nous après ce que nous avons fait aux Juifs? Nous devons soutenir Israël. » Mais ce n'est pas la raison, c'est ce que j'essaie de dire, c'est une justification. Les raisons n'ont rien à voir avec le complexe de culpabilité, à mon avis. Le complexe de culpabilité est instrumentalisé pour dire « Ne nous parlez pas d'Israël parce que nous sommes coupables de ce que nous avons fait. Vous devez comprendre, même si nous soutenons le meurtre d'enfants à Gaza, vous devez comprendre à cause de l'Holocauste, nous devons soutenir le meurtre de Juifs et d'enfants. Maintenant, évidemment, si vous arrêtez un instant et ce que vous leur dites, vous savez, cela ne semble pas logique ce que vous dites. Ils disent oui, cela n'a rien à voir avec la logique, c'est un complexe d'infériorité. Je pense que nous devons dire que les vraies raisons et séparer les excuses que les gens nous donnent, vous savez, parfois les individus expliquent leurs actions et ils croient avoir une véritable explication. Mais ce ne veut pas dire que cela soit une... Vous pouvez faire quelque chose de très mauvais et dire « Oh non, 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 je le fais pour le bénéfice ». Mais nous le savons par la vie privée que nous expliquons parfois, et je pense que c'est très important et c'est très important d'expliquer parce que c'est au cœur de la conversation. Aujourd'hui, dans la politique française sur l'antisémitisme, je ne crois pas le français, mais je comprends assez bien que c'est le débat le plus idiot que j'ai jamais entendu dans la société civilisée. Je n'en ai jamais entendu autant d'absurdités et d'idées idiotes lancées dans l'air sur l'antisémitisme. Parce que si c'était l'enjeu numéro un entre la gauche, la droite et le centre dans ce pays, mais on comprend d'où ça vient. Ça vient du fait que les gens ne veulent pas parler du vrai racisme en France, qui est l'islamophobie et l'arabophobie. Ça vient du problème que la France, comme le reste de l'Europe, n'a jamais voulu résoudre le problème juif sur le sol européen. Si les Français et les Allemands se sentent tellement coupables de ce qu'ils ont fait aux Juifs, et ils aiment le dire, que les Juifs aient un État, qu'on leur donne l'Alsace-Lorraine. Pourquoi vous leur donnez la Palestine? C'est pour ça qu'ils font ça. Ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Ce n'est pas qu'un drop, ça ne va pas permettre aux gens de faire face à la médiocrité des politiques et leur incapacité de traiter les vrais problèmes que je transgresse.
Moi, j'aimerais bien que vous rendiez compte de l'importance de l'enjeu du droit au retour des réfugiés palestiniens, parce que c'est la question du nettoyage ethnique de 1948, c'est la question vraiment centrale, et c'est la revendication des Palestiniens, et notamment des Palestiniens de 48 et même de plus tard. Et ce qui est intéressant, ce que vous montrez bien, notamment dans le dernier chapitre, c'est à quel point est-ce que cette question-là fait peur aux sionistes, à quel point elle a été mise de côté et esquiver dans tout le processus de paix, à chaque fois qu'il y avait des processus de paix, et notamment les accords d'Oslo, et c'est pour ça que ça a été reproché à Arafat d'avoir accepté les accords d'Oslo, alors qu'il mettait de côté la question du droit au retour des réfugiés palestiniens. Donc ça, c'est une question qui revient tout le temps. Pourquoi est-ce que c'est si central, et pourquoi est-ce que ça fait aussi peur à Israël et aux sionistes, la question du droit au retour?
Tout d'abord, il est important de se rappeler qu'un bon nombre de Palestiniens sont réfugiés à l'intérieur de la Palestine historique. 70% des habitants de Gaza sont des réfugiés. Alors, quand on parle de droit au retour vers les lieux d'où ils ont été expulsés, nous parlons d'un changement de la nature entière des relations entre les Palestiniens et les Juifs. Tout d'abord, dans la Palestine historique, si vous vous opposez à leur droit au retour, et je ne parle pas encore de comment le mettre en œuvre, si vous vous opposez au droit au retour, ça signifie que vous souhaitez que le statu quo continue. C'est-à-dire que l'état d'apartheid d'Israël continue. De sorte que, tout d'abord, cette discussion sur le droit au retour est liée à la discussion sur l'avenir de la nature de l'État. Si l'État est démocratique et s'inscrit dans la décolonisation et fait partie de la réconciliation, alors le droit au retour en fait naturellement partie. Si vous voulez continuer le régime d'apartheid, la colonisation, bien sûr, vous objectez à tout changement dans la réalité, y compris du retour. C'est donc mon premier point. Nous ne commençons pas par le droit au retour, nous commençons par la question: quelle est la nature du régime entre le Jourdain et la Méditerranée? Est-ce que c'est un état d'apartheid ou est-ce que c'est un état démocratique? Et ça change beaucoup le débat sur le droit au retour. Dans une démocratie, la question serait pratique. Comment le faire? Pouvons-nous le faire? Dans un état d'apartheid, la question est idéologique. Nous y sommes contre. Nous ne voulons même pas en entendre parler. C'est donc mon premier point. Le deuxième point est que pour en terminer avec une situation dans un endroit comme la Palestine, et si vous voulez vraiment construire une nouvelle réalité meilleure pour tout le monde, ce que nous appelons la réconciliation, pas la paix n'est pas un mot pertinent pour la Palestine, mais c'est la réconciliation, même si on essayait de le faire dans l'Afrique du Sud, post-apartheid, il faut rectifier les mots du passé autant qu'on le peut. Allons parler de l'Afrique du Sud. Desmond Tutu a suggéré: je ne veux pas, pour une nouvelle Afrique du Sud, traduire en justice tous les criminels qui faisaient des choses terribles aux Africains en Afrique du Sud. Il parlait de l'apartheid. Je préfère un comité vérité et réconciliation. Autrement dit, je veux que ces gens admettent les torts qu'ils ont commis. Et que dans ce genre d'idéal catholique, chrétien, peut-être même évangélique, que je ne les aborderai pas, bonne ou mauvaise façon de procéder, c'est une approche différente de la réconciliation. Dans le cas d'Israël et de la Palestine, il faut mettre un terme à la situation et il faut admettre le nettoyage ethnique de 1948 et il faut trouver un moyen de corriger l'injustice qui a été faite aux Palestiniens. Et donc, en principe, vous devez accepter le droit au retour afin de montrer que vous connaissez ce qui s'est passé et que vous savez qui est responsable de ce qui s'est passé. Et troisièmement, vous voulez réfléchir à la manière de le rendre plus juste. Maintenant, le droit international a beaucoup de procédures. pour permettre aux gens de revenir sans violer les droits des personnes qui vivent déjà sur place. Ce n'est pas quelque chose qui n'a pas été envisagé ou discuté. Nous avons les principes de l'ONU sur la manière de mettre en œuvre le retour. Nous avons les études de cas sur le droit au retour dans de nombreux États. Les gens ont investi tellement de temps et d'énergie pour construire des machines de guerre. Ils peuvent investir 2 ans pour savoir comment réintégrer les réfugiés dans un pays. C'est possible. À partir du moment où tu n'es pas raciste, parce que si l'État d'Israël continue d'être un État juif raciste, ils ne veulent pas que les réfugiés palestiniens reviennent. Non parce qu'il n'y a pas de place ou que ce n'est pas pratique, mais parce qu'ils ne veulent pas de Palestiniens. Ils sont occupés à expulser les Palestiniens sans parler de permettre à d'autres Palestiniens de revenir. Donc je pense que c'est pour moi le problème central dans cette situation. C'est la question centrale du problème. Une Palestine ou une discussion sur la Palestine dans le monde qui commencerait par se demander comment permettre aux Palestiniens de revenir est le début d'une bonne conversation sur la Palestine. Et je le compare à la mauvaise conversation. La mauvaise conversation, c'est celle que nous avons eu pendant 56 ans, peut-être même depuis 1947, sur la solution à 2 États. La solution à 2 États n'était pas la bonne conversation. Malheureusement, soutenue également par des Palestiniens très importants. Mais la solution à 2 États était basée sur l'idée qu'un Israël apartheid raciste peut exister juste dans une partie de la Palestine. Bon, c'est l'idée de la solution à 2 États. Et ce n'est pas la bonne conversation. On a perdu 56 ans au moins. Vous savez, il y a un dicton juif. Nous cherchions la clé, là où il y avait de la lumière, et non là où nous l'avions perdue. Et nous avons perdu la clé et la lumière. Et la lumière, c'était la solution à 2 États, mais la clé aussi. En terminant cette émission, je tiens à remercier l'équipe de la chaîne Parole d'honneur que vous pouvez retrouver sur Internet. Les journalistes de Parole d'honneur ont invité l'historien israélien Ilan Pappé pour parler non seulement de son livre « Le nettoyage ethnique de la Palestine », mais aussi de la situation actuelle de la Palestine et d'Israël. Je vous conseille donc la lecture, bien sûr, du livre d'Ilan Pappé, « Le nettoyage ethnique de la Palestine ». Il vient d'être réédité par les éditions La Fabrique et, dans un avant-propos écrit spécialement en juin 2024 pour la version française du livre, Ilan Pappé analyse l'attaque du 7 octobre 2023 et le massacre dans la bande de Gaza. Et pour terminer, il me reste bien sûr à remercier Frédéric qui assure chaque semaine la diffusion de nos émissions Civis Pacem. Et je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
ولا ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
C'était un gosse qui était laid, quelque chose d'odieux, qu'à le voir ça faisait mal aux yeux, c'était atroce. Des plaies partout, jamais guéries, rongées par les intempéries, plus une bosse. Au Seigneur je dis quelques mots et j'offris au petit marmot, au pauvre petit gosse, une boîte en fer blanc pour faire au long de la ruelle, une boîte cabossée pour faire danser avec une ficelle. Il habitait, je ne sais pas, peut-être qu'il n'habitait pas. C'était un gosse qui devait pas manger souvent, car il tombait au moindre vent. C'était atroce. Ses habits avaient tant de trous qu'on croyait qu'il faisait la roue avec sa bosse. Mais quand il jouait, c'est rigolo, on aurait dit un angelot, le pauvre petit gosse. Sa boîte en fer blanc faisait le long de la ruelle, sa boîte cabossée la faisait danser avec la ficelle. Il s'amusait, je ne sais pas, peut-être il ne s'amusait pas, c'était un gosse. Quand sa boîte fila dans l'égout, il a grimacé de dégoût, ce fut atroce. Comme il a grippé la ficelle, il fut entraîné avec elle jusqu'à la bosse. Du bout du pied, je l'ai introduit sur il est au ciel aujourd'hui, le pauvre petit gosse. Sa boîte en fer blanc fait corps en dessous de la ruelle, sa boîte cabossée doit corps danser avec la ficelle.
Si Dieu était un peu moins con, ça saurait bout du con. S'il est aussi bon qu'on le dit, ça se verrait, et pardi, hey. Mais après tout, il est comme il est, Dieu est surtout comme on l'a fait. Pas plus malin ou bêtin qu'un autre, ni plus ni moins mauvais apôtre. Cependant, ce qui me gêne chez ce quidam, qui est peut-être même qui c'est une dame, ce qui frise les fouxets d'élégance, c'est de ne briller que par son absence. En fait tous ceux, vieilles branchées, oui, à qui tu dois d'être encore là. Je suis un homme et ça me suffit, pas besoin qu'un goût roue à la gomme, qu'un Bouddha ou qu'un Jésus-Christ, qu'un grand rabbin, qu'un alakin, anachorète me prenne la main.
que sais-je encore. Elle traîne la tête, ses bouches d'or, de toute secte, de tous bords, s'assédue. Pareil au même, se taper dessus, c'est pas la peine pour ces foutus énergumènes. La foule notoire des abonnés à tel ou tel père éternel. Je voulais seulement dire en passant à tous ces gens, fans hermétiques, parfois virants, aux fanatiques, qu'en sacrifiant conscience et âme à une croyance, à un programme, qu'en brigader
conscience et âme par allégeance,
vous fourbissez, messieurs, mesdames, aussi des armes d'intolérance. Dessus bord, basta, suffit de rester en berne. Cessons encore prendre nos messies pour des lanternes. Vous comprendrez que je préfère rester au fond de mon lit à méditer avec mamie, qui est bonne comme du pain pas béni, du pain perdu à la myrtille. J'aime mieux visiter quelques endroits de paradis, du bout des doigts, dans des pays tout en dentelle et qui tout droit vous mènent au ciel.
Qu'est-ce qu'il a qui va pas, l'homme qui fait les 100 pas? Qu'est-ce qui grogne entre ses dents? Après qui il en a, l'homme qui fait les 100 pas? Comme une boîte de bière cabossée entre les pieds d'un gosse, une pauvre souris blessée aux griffes d'un chat féroce. Il va, il vient dans une cage, aux barreaux invisibles. Pas de géant, pas de fourmi, on dirait qu'il cherche la sortie. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il attend? Un enfant, un emploi, l'homme qui fait les 100 pas. Est-ce une maîtresse? Est-ce un mandat? Un coup de fil qui ne vient pas, l'homme qui fait les 100 pas. Épinglé comme un scarabée dans une boîte d'allumettes, saccagé pleine d'ongles rongés, de mégots de cigarettes. Il frappe les 3 coups et jamais ça commence. Il tourne en rond, il devient fou, comme un écureuil dans sa roue. Qu'est-ce? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il attend? Un concours, un combat, l'homme qui fait les 100 pas. Est-ce des caresses? Le nirvana, le messie, Jéhovah, l'homme qui fait les 100 pas. Voilà qu'arrive une ambulance, il entend la sirène, et dans une dernière danse, la voilà qui l'entraîne. Deux portes s'ouvrent dans la nuit, sur un ciel plein d'étoiles, et le voilà sur la civière. Au fil n'a plus les pieds sur terre. Je voudrais m'endormir au creux d'une barque, au milieu de l'eau, au milieu de l'eau. Écoutez le bois de mon cœur qui craque contre les roseaux. Tirez le rideau, joli matelot.